Nous allons lire un texte sévère dans le prophète Amos, Osée, pardon. C'est le petit prophète après les grands, après Ézéchiel et Daniel. Il y a Osée. Et il y a un texte dans Osée qui m'a interpellé. Cette semaine, je partais me coucher, c'était de bonne heure, hein, et je me suis dit, tiens, tu vas lire. Et j'ai été poussé à lire ce prophète Osée, qui est il est petit par le nombre de chapitres, mais croyez-moi, il est grand par le contenu. Dans Osée au chapitre 8, il y a un verset qui fait frémir. Que nous le voulions ou non, il fait réfléchir. C'est dans ce but, bien sûr, qu'il a été laissé dans la parole. Osée chapitre 8, on va lire les 5 premiers versets. Il y a un verset, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous le lisez pour la première fois. Osée 8, verset 1er, « Embouche la trompette ». Donc Dieu parle à son serviteur, « Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. » Ça ne vous fait pas réfléchir ce verset? Rendez compte? Comment cela est-il possible que l'ennemi puisse avoir accès comme ça sur l'œuvre de Dieu? Alors, c'est écrit, « Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi, ils crieront vers moi, « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël !» Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront retranchés. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Et là, Dieu pose une question. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Voilà où était le problème. Le peuple avait son culte, avait sa religion, mais il ne voulait pas obéir. Et c'est pour ça que l'ennemi a pu avoir accès sur le peuple d'Israël. De la même manière, l'Église doit emboucher la trompette. Les pasteurs, en tous les cas, sont appelés pour apporter un message qui va réveiller l'Église afin qu'elle puisse combattre le bon combat. L'apôtre Paul le dit différemment dans les Corinthiens, on peut le lire ensemble, dans 1 Corinthiens chapitre 14. « Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Mes frères, mes sœurs, vous qui dans quelques instants allez prendre le pain et le vin, vous êtes d'accord que l'Église, c'est une armée? Non? Est-ce que l'Église, c'est une armée? Et oui, est-ce que nous sommes appelés à combattre, à nous armer, à nous revêtir de toutes les armes, non seulement pour nous protéger nous-mêmes, pour nous protéger soi-même, mais pour aider ceux qui sont dans les ténèbres à découvrir la grâce de Dieu? Vous n'êtes pas heureux que des hommes et des femmes ont prié pour vous? Pourquoi vous êtes là cet après-midi? Qui a prié pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a prié pour vous? Peut-être ce sont vos parents, peut-être ce sont des voisins, peut-être ce sont des amis, peut-être c'est une tante, un oncle. Mais si nous sommes ici cet après-midi, il y a de très très grandes, fortes chances que c'est parce que quelqu'un que nous ne connaissons peut-être même pas bien a prié pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et à notre tour, il faut que nous soyons dans ce combat. Et si la trompette est confuse, si la prédication est superficielle, si le message qui est prêché du haut des chairs n'est pas clair, ça sera, comme le dirait la palisse, confus. Et si le message est confus, les chrétiens seront dans la confusion. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi. Quelles sont les attitudes, les comportements qui amènent la confusion dans l'Église du Seigneur? Car une Église qui est dans la confusion, un chrétien qui est dans la confusion, il ne peut pas combattre. On le lit dans cette question, mais qui se préparera au combat? Nous sommes dans un monde difficile. Nous sommes dans un monde où les chrétiens devraient discerner les signes des temps. Nous voyons par ce qui se passe dans les pays arabes, quand même que les choses sont en train d'évoluer. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne s'attendait à cela. En quelques semaines, nous avons tous été bousculés par ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas terminé. Et ça va avoir des répercussions sur Israël, sur les prophéties bibliques. Le Seigneur l'a dit, mais vous savez discerner l'aspect du ciel? Vous savez quand vous voyez le soleil, le coucher du soleil ou le lever du soleil, vous savez le temps qu'il fera demain ou dans la journée? Et vous ne savez pas discerner ces temps-ci? Et c'est peut-être pas votre faute, mais c'est peut-être notre faute à nous parce que nous n'avons pas embouché la trompette, parce que nous n'avons pas averti les chrétiens. Et la Bible demande aux pasteurs d'avertir les chrétiens, d'enseigner certaines choses. L'Église, elle doit être bien enseignée, afin qu'elle combatte le bon combat de la foi. Et si elle ne combat pas, elle sera tiède, elle sera froide, elle sera inerte, elle ne comprendra pas pourquoi. Pourquoi il faut peut-être avoir une réunion de prière. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Et quand vous leur demandez, ils vous disent, mais pourquoi prier? Je ne vois pas pourquoi prier. Voyez? Ils sont pas. Alors on peut pas les accabler. Peut-être c'est un. Ils ont besoin d'ouvrir les yeux. Mais quand même, dès qu'un chrétien se convertit, il devrait rentrer dans le bon combat de la foi. Je répète, un bon combat de la foi. Le combat, c'est pas une corvée, c'est pas une contrainte, c'est une grâce d'avancer dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir quelques versets qui nous parlent de la fin des temps. Quelques versets qui nous montrent combien il y aura beaucoup de confusion quand Jésus va revenir. Mais nous pouvons éviter cette confusion, justement, en nous purifiant, en nous ressaisissant, en disant cet après-midi, je pense que tu veux me parler, je pense qu'il y a des choses dans ma vie qui sont confuses. Si la trompette est confuse, le peuple sera confus, c'est incontournable. Si la trompette est claire, le peuple marchera vraiment dans la clarté, c'est évident. Dans Matthieu 7, vous connaissez ce texte, c'est un des textes, c'est terrible en fin de compte. On l'utilise souvent pour l'évangélisation, mais c'est un texte qui nous parle du retour de Jésus. Dans Matthieu au chapitre 7, vous connaissez, Jésus, c'est la fin du sermon sur la montagne avant la parabole des deux fondements, il parle de ceux qui s'adresse à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? On va lire quelques textes, c'est important. Ce ne sont pas, Matthieu 7, 22, ce sont ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On utilise très souvent ce texte pour amener les pécheurs à la conversion et à la croix. Mais ce texte, en vérité, nous parle de la confusion qui existera lorsque Jésus va revenir. D'un côté, l'œuvre de Dieu qui se fait, c'est incontournable, et de l'autre, les croyants qui vivent dans le péché. Il y aura un mélange à la fin des temps, incroyable. On va le voir dans d'autres textes, la confusion, parce que les chrétiens n'ont pas réussi à comprendre qu'il fallait séparer ce qui était bien de ce qui était mal. Dans la fin des temps, les églises ressembleront beaucoup au monde. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps de ça, c'est l'an dernier, il y a eu une fête de Noël dans une église, et une chrétienne a invité une inconvertie. Et quand elle est arrivée dans l'église, il y avait tellement de confusion qu'elle est ressortie, elle a dit non, ça ne peut pas être une église. Et elle était vraiment dans une de nos églises. Et cette païenne a vu la chrétienne le lendemain ou le soir, il a dit non, je me suis trompé. La chrétienne a dit non, tu n'es pas trompé, c'était bien une église. Et dans la fin des temps, les églises ressembleront beaucoup au monde. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas vieux. Dans la fin des temps, on voit par un texte comme celui-ci que les gens confondront le bien du mal. On appelle le mal bien. Il y a des choses pour qui, mais non, c'est pas mal. Mais ça, on le fait, mais c'est pas mal. Le Pax, est-ce que c'est bien le Pax? C'est légal. C'est légal. Alors la question qu'il faut poser est celle-ci. Est-ce que tout ce qui est légal est moral? L'avortement, est-ce que c'est légal? Est-ce que bibliquement c'est moral? Et non. Alors je donne cet exemple, mais beaucoup même de chrétiens acceptent l'idée qu'à partir du moment où quelque chose a été légalisé, bientôt on va légaliser la drogue, une certaine drogue, mais je peux vous dire que ça ne sera pas très moral. Et ça rentre petit à petit, j'entendais une chrétienne qui disait dernièrement, mais moi je ne suis pas contre que ma fille vive dans le concubinage, je préfère qu'elle vive dans le concubinage plutôt qu'elle se marie, si elle doit divorcer, qu'elle prenne des moyens de contraception, moi je n'aurai pas d'histoire. Vous voyez? Et elle disait ça avec une assurance. Voilà, on venait dans un monde, le monde, l'église, de la fin des temps sera une église où on ne fera pas la différence entre le saint et le profane, entre le pur et l'impur. C'est écrit dans Ézéchiel, ils ne feront pas la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Mais le verdict, on l'a lu. Qu'est-ce que Jésus va dire à ses chrétiens? On l'a lu au verset 23. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Retirez-vous, je ne vous ai jamais connus. C'est ça que vous avez envie d'entendre quand vous passerez devant Dieu? Sérieusement, vous allez comparaître devant Dieu. Moi avec, ne vous inquiétez pas. Vous êtes d'accord? Vous le savez. C'est ça que vous avez envie d'entendre? Voyez la confusion. Si la trompette rend un son confus, les croyants seront dans la confusion. Et nous avons la parole. Et ce verdict-là nous fait frémir. Des chrétiens, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui se sont targués d'avoir fait des choses pour Dieu. Mais comme je disais ce matin, ce n'est pas ce que l'on fait pour Dieu qui est important. C'est ce que l'on est vraiment. C'est ce que l'on est. Vous savez, ce que l'on fait, c'est bien. Que l'on ait fait certaines choses, que l'on ait fait des œuvres, tout ça, c'est important. Même, c'est très important. Mais quand on passera devant Dieu, c'est d'avoir été purifié jusqu'à la fin, lavé jusqu'à la fin. Je n'ai pas envie, moi, que vous entendiez, retire-toi de moi. Dans Matthieu, au chapitre 24, il y a cette réponse que Jésus adresse aux c'était des pasteurs, c'était les apôtres, qui se posaient des questions par rapport à l'enlèvement, à l'avènement, à la fin du monde. Ils ont posé trois questions et Jésus va leur dire, Matthieu 24, verset 4, c'est la première réponse. Jésus dit ceci, il leur répond, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, si vous cherchez dans un dictionnaire, vous verrez qu'il y a plusieurs explications. Mais le verbe séduire signifie plaire à quelqu'un, captiver sa confiance. C'est-à-dire qu'on arrive par un certain enseignement à amener les gens à avoir confiance dans cet enseignement-là. Un enseignement qui plaît. Et beaucoup de chrétiens, même chez nous, disent non, nous on ne se fera pas piéger. Nous on a la Bible, on ne tombera pas dans ce piège. Mais pourtant Jésus il est formel, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront séduits par un évangile édulcoré, arrangé, un évangile où on parle de Jésus, où Jésus est tout le temps en premier, mais on ne parle pas de repentance, on ne parle pas de sainteté, on ne parle pas de consécration, ou alors on en parle mais d'une manière facile à vivre. C'est un autre Christ. Jésus l'a dit, plusieurs viendront en disant « c'est moi qui suis le Christ ». Et dans nos églises, quel est votre Christ? Quel est votre Christ à vous? Quel est votre Christ? Quel Christ suivez-vous? Est-ce que vous suivez le Christ de toute la parole de Dieu? Ou est-ce que vous suivez le Christ d'une partie de la parole de Dieu? Un évangile où on peut tout faire, on peut être dans le monde tout en étant chrétien, on peut être un bon chrétien tout en étant un bon païen. Ce qui est important, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Oui, certains ne suivent pas le Christ des évangiles, le Christ qui nous parle de sainteté et de pardon et de repentance, mais un Christ qui est bon, qui nous laisse tout faire. Ils séduiront beaucoup de gens. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont séduits par cet évangile permissif. Tout est permis. Mais c'est écrit, en fait. Est-ce que c'est écrit? Tout est permis. Et voilà. Bien sûr, on ne lit pas la suite, on n'écoute pas la suite de l'enseignement. On se contente bien de prendre dans le texte que ce qui nous intéresse. Tout est permis, tout est permis. Alors je fais ce qu'il fait. Hein? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Moi, je suis un chrétien libre, je suis libéré, je fais ce qu'il me plaît. Est-ce que c'est ce Christ que vous suivez? Si c'est ce Christ que vous suivez, vous vérifierez que ce n'est pas du tout le même quand vous passerez devant lui. Vous verrez que ce n'est pas du tout lui-même. Le refroidissement, cette confusion. Voyez Matthieu 24, verset 12. Qu'est-ce que c'est qui va mettre les gens dans la confusion? L'iniquité. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je me souviens, j'avais 2 jours de conversion quand j'ai lu ce verset. J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'arrivais pas à le croire. Je connaissais rien du tout. Mais aujourd'hui, les années ont passé, et laissez-moi vous dire que ça fait frémir de lire que dans le royaume de Dieu, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est une prophétie. Et ça doit nous interpeller. Est-ce que vous voulez faire partie de cette foule? Est-ce que vous voulez faire partie de ce plus grand nombre qui va se refroidir dans les églises? Où on ne pourra plus, je vous dis, parler de sainteté, on sera taxé de légaliste, si on dit certaines choses, si on amène les gens à l'humiliation, si on amène les gens à la repentance. Et si la trompette rend un son confus, les gens seront de plus en plus attirés par ce refroidissement des cœurs. C'est une prophétie. Jésus savait qu'à cause des faux docteurs, des faux enseignements et des faux prophètes, il y aurait un grand, grand refroidissement parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité, c'est le manque de droiture, c'est le manque de justice. C'est pas pour autant que les chrétiens ne veulent pas de l'excitation. Et il y a des églises où il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de charnel. Alors on a l'impression qu'il y a de la vie, parce que c'est excité. Et je peux vous dire qu'on peut avoir un cœur refroidi et être excité charnellement. J'ai vérifié ça dans plusieurs endroits, des endroits où on fait lever les gens, on les fait s'exciter. Alors ça donne une impression de vie. C'est pas de la vie, c'est de l'excitation. La question que nous devons nous poser est celle-ci: est-ce que mon cœur est bouillant pour le Seigneur? Ça n'a rien à voir avec de l'agitation, de l'excitation, des machins, et je sais ce que vous voudrez. Non, c'est un cœur bouillant. Seigneur, cet après-midi, j'ai besoin d'entendre ta voix. Je veux être à ma place, je veux être dans ta volonté. Oui, il y a un texte dans les Proverbes où il dit « leur cœur est partagé ». Non, c'est dans les Rois. « Leur cœur est partagé, ils en porteront la peine ». Un cœur partagé, un cœur qui aime le monde, un cœur qui aime l'Église, c'est un cœur qui est dans la peine. On essaie de faire un accommodement, d'être bien dans l'Église, d'être bien dans le monde. Moi, j'aime bien l'Église, mais j'aime bien aller danser. Je me souviens de cette chrétienne qui était ici et qui s'est vraiment convertie. Mais les premiers mois après son baptême, elle allait danser. Et un jour, elle me dit: « Mais monsieur Gau, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis: « Écoutez, pour moi, ce n'est pas la place d'un chrétien, je sais ce que c'est en plus, d'aller danser. » On me dit: « Quand même, je témoigne. » J'ai dit: « C'est bien, je vais témoigner. » Et elle revient le vendredi ou le jeudi après, elle arrive. Elle me dit: « Monsieur Gau, il faut que je vous parle. Vous savez, j'ai été danser. » Et puis, j'ai voulu témoigner à un cavalier qui m'avait invité à danser avec moi. Et puis, je lui ai dit que j'étais chrétienne. Et puis, il m'a dit: « Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre place. » Elle m'a dit: « Monsieur Gau, j'ai compris. » Et ouais, parce qu'elle y a vraiment parlé de Jésus, qu'elle était chrétienne. Mais le gars dit: « Mais si vous êtes une chrétienne, vous n'avez pas votre place là. » Et je crois que le gars, il avait plus de lucidité qu'elle. Mais elle a compris, merci Seigneur. Des fois, Dieu est obligé d'utiliser un païen pour nous parler. On va faire prêcher les païens bientôt, ça ne sera plus. Hein? Quand Jésus reviendra, une chose est sûre, avec tout l'enseignement qui est incorporé dans la parole de Dieu, l'Église, elle sera surprise. Parce que les gens sont insouciants. Les gens sont insouciants. Hein? Parce que les gens ne veillent pas. Jésus le dit, regardez dans Matthieu 24, quand il parle de ce qui arrivera, il dit: ça sera exactement pareil comme du temps de Noé. Et du temps de Noé, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, verset 38, verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Les gens ne pensent pas, beaucoup de chrétiens ne pensent pas que Jésus va revenir. Ils vivent comme s'ils allaient encore vivre 300 ans sur la terre. Est-ce que vous y pensez de temps en temps que Jésus peut revenir d'un instant à l'autre? Est-ce que vous y pensez? C'est sérieux cette affaire. Vous savez, quand on voit tous les signes autour de nous, et si on ne sait pas les discerner, c'est clair qu'on va être dans l'inconscience de ces choses. Ils ne se doutèrent de rien, il en sera de même. Les gens pensaient à manger, à boire, etc., à faire la fête. Ils pensaient qu'à ça. Mais ils ne se sont pas doutés que chaque coup de marteau qu'ils entendaient lorsque Noé construisait son arche était un avertissement que bientôt ça allait arriver. Comme chaque prédication est un coup de marteau de Dieu pour nous montrer, eh bien, que bientôt ces choses-là vont arriver. La parabole des 10 vierges, c'est une prophétie. C'est une prophétie qui nous montre que, eh bien, dans la fin des temps, voyez, les chrétiens prêts côtoieront les chrétiens qui ne sont pas prêts. Dans la parabole des 10 vierges, il y a 50% de chrétiens qui sont prêts et 50% de chrétiens qui ne sont pas prêts. Celles qui étaient prêtes, bien sûr, sont entrées au festin des noces, et celles qui n'étaient pas prêtes, eh bien sûr, sont restées dehors. Et voyez, tout ça, c'est ensemble. Et à la fin des temps, il y a une parabole qui parle que, vous savez, quand livrer le bon grain, et Jésus, il explique ça, et puis il y a ses serviteurs qui disent: « Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille enlever livrer ?» Non, non. N'allez pas enlever livrer, de peur qu'en enlevant livrer, vous arrachiez également le bon grain. Comme quoi, on n'est pas capable de voir. On peut dire: tiens, ce chrétien, ce n'est pas un bon chrétien, celui-là, c'est quelqu'un qui a une vraie piété. Vous savez,
Est-ce qu'on est capable de dire, tiens, moi je connais dans l'Église tous ceux qui sont prêts, je connais tous ceux qui ne sont pas prêts. Est-ce qu'on peut être capable? Non. À partir du moment où nous on regarde à l'apparence et que Dieu regarde au cœur, il est certain qu'on ne peut pas regarder. Parce qu'on peut avoir l'apparence de la piété. Et on peut avoir un comportement très très humble, justement, ne peut-être pas exprimer beaucoup de piété, mais avoir une véritable piété. Donc il n'est pas possible de vous savoir si quelqu'un est prêt. Bon, quand on discute avec les gens, au bout d'un moment, je vous avoue que je sais un petit peu à quoi m'en tenir. Mais cette parabole, elle est là, la proportion est terrible. Moi, j'aurais préféré qu'il y en ait une folle et neuf sages, mais la proportion, c'est du 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont pas prêtes. Et pourtant, les vierges de la parabole, est-ce qu'elles n'attendent pas les noces de l'agneau? Dites-moi, est-ce que ce n'est pas une parabole où ce sont les chrétiens qui attendent les noces de l'agneau? C'est l'Église du Seigneur qui attend que Jésus revienne. Et il y a des chrétiens qui attendent que Jésus revienne. Ils sont là, tout excités de ce que Jésus puisse revenir, et pourtant ils ne sont pas prêts. Ils attendent la noce, mais ils ne sont pas prêts. Ils attendent la fête, mais ils ne sont pas prêts. Ils croient dans les promesses. Ils croient dans toutes les promesses de Dieu, mais ils ne sont pas prêts. Ils sont avec des chrétiens qui sont prêts. Ils sont heureux d'être avec des chrétiens qui sont prêts. C'est quand même une grâce d'être avec des frères, avec des sœurs. Est-ce que c'est bien d'avoir une vie d'église? Hier, je recevais un long mail d'un chrétien qui me disait « Ah, j'écoute vos prédications sur Internet, je suis dans un village, j'ai pas d'église, et j'écoute, je ferme les yeux, j'ai l'impression que je suis avec vous. » J'en profite pour vous saluer, Alain, puisqu'il écoutera cette prédication. Et il me disait « Ah, vous devez être heureux d'être tous ensemble. » Je dis « Oui. » Oui, je vais lui répondre, j'ai pas encore répondu. Eh oui, on est heureux d'être ensemble. Et peut-être que vous n'êtes pas prêts. Et pourtant, vous êtes heureux de graviter avec tous ces chrétiens qui sont prêts autour de vous. Ils avaient une certaine mesure de l'esprit, mais ils n'avaient pas accepté Jésus comme Seigneur. Et le problème des vierges, que Jésus catalogue comme étant folles, elles sont folles. Nous, on pourrait dire que c'est pas méchant, elles ont oublié. Et les chrétiens sont comme ça, très légers. Oh, j'ai pas le temps de faire mon culte, c'est vrai, je suis négligent. Jésus n'a pas dit des vierges folles qu'elles étaient négligentes. Il a dit qu'elles étaient folles. Elles sont folles. Si vous négligez votre communion avec Dieu, je vous le dis parce que Dieu le dit, je n'oserais pas le dire, vous êtes fous. Si vous ne prenez pas le temps de prendre de l'huile dans la communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, vous êtes fous. Je vous le dis parce que je dois vous le dire. C'est ça la trompette qui rend un son clair. Et c'est l'inverse, un son confus, c'est ça, je ne sais pas, je fais mon culte personnel, je ne le fais pas, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Bon, on verra bien. C'est un peu d'oubli, j'oublie. Non, Jésus n'a pas dit qu'elles oubliaient de l'huile, qu'elles étaient oublieuses. Jésus a dit qu'elles étaient folles. Et si vous ne vous appliquez pas à avoir Jésus comme Seigneur, en plus de l'avoir comme Sauveur, vous vous rendez compte, il y a des chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens, ils sont incapables d'expliquer la différence entre Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. C'est bien la preuve qu'ils sont dans la confusion. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'un pécheur ne sache pas expliquer, quoique j'ai eu affaire à des inconvertis qui m'ont de suite expliqué ce qu'était Jésus Sauveur et ce qu'était Jésus Seigneur. C'est pour vous dire combien la confusion est là. Et ces vierges folles, elles croyaient que... Alors quand est-ce que quelqu'un est prêt? C'est ça qu'il faut se poser la question. Quand est-ce qu'on est prêt? On est prêt quand on a une véritable communion avec Dieu. Est-ce que vous vous appliquez à entretenir votre communion avec Dieu? Est-ce que vous aimez, chez vous, lire la Bible et prier? Est-ce que vous aimez? 3, 5. C'est un début. Est-ce que vous vous appliquez à lire votre Bible avec votre cœur et dire « Seigneur, je veux te connaître ». Je ne sais pas le temps que vous avez pour ça, mais vous le faites sérieusement. Vous aimez vous recueillir, vous isoler et vous dire « Maintenant, Seigneur, c'est entre toi et moi, j'aime me tenir dans le lieu secret ». J'ai fait une étude l'an dernier, je crois, avec les jeunes, où j'avais expliqué que le secret, c'est le lieu secret. Et c'est vrai que Jésus dit « Va dans le lieu secret ». Et là, prie ton Père, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Un chrétien, il est prêt quand il entretient une véritable communion avec Dieu. Beaucoup de chrétiens se contentent d'une relation superficielle. Vous vous rappelez ces chrétiens qui vont dire à Jésus, « Mais on a mangé avec toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi. Encore une fois, Jésus qui dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Parce qu'il vivait dans l'iniquité. Voilà, un chrétien, il ne se contente pas d'une relation superficielle. Il dit, moi, je veux une relation profonde. Cet après-midi, vous voyez, vous avez pris le temps. Je ne sais pas, vous auriez pu faire tout un tas de choses. Vous avez dit, non, j'irai dans la maison du Seigneur. Je crois que Dieu a une parole pour moi. Il faut que je me remette à niveau avec Dieu. Il faut que je vois, je réalise où j'en suis. Dieu a vu que vous viendriez. C'est peut-être pour ça qu'il m'a donné ce message. On est prêt, oui, quand on a une communion avec Dieu. On est prêt quand on garde ses vêtements propres. Vous connaissez ce texte, je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est la sanctification. Je suis soucieux de me sanctifier. Oh non, ça c'est pas bien. M'approcher de Dieu, c'est important. Ces choses-là, non, je ne peux pas les cautionner. Ces choses-là, je ne peux pas les faire. Ces endroits-là, je ne peux pas y aller. Ces choses-là, je ne peux pas les regarder. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs. Vous vous rappelez dans la parabole du festin des noces? Elle nous parle des noces de l'agneau. Nous, on arrête toujours l'enseignement de cette parabole sur tous ceux qui s'excusent. L'un avait un champ, il fallait qu'il aille le voir. L'autre, il avait des bœufs, il fallait qu'il aille les essayer, etc. Mais cette parabole, elle termine avec quelqu'un qui avait accepté l'invitation. Vous vous rappelez? Et le maître lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais ici? On le lit, c'est dans Matthieu 22. Regardez, dans Matthieu 22, nous, on prêche toujours sur ceux qui se sont excusés. Mais il y en a un, il a accepté l'invitation et il représente les chrétiens qui ont accepté l'invitation, mais n'ont pas accepté la condition. Regardez. Verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alors, c'est une parabole, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va se retrouver au ciel à l'enlèvement, à qui Jésus va dire, ah, je me suis trompé, retourne. C'est une parabole. Cet homme eut la bouche fermée. Qu'est-ce qui se passe? Le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements. Dedans, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voyez, il a accepté l'invitation. Il représente les chrétiens qui ont dit « Oui, j'accepte Jésus !» Mais il n'accepte pas la sanctification. Il n'avait pas revêtu un habit de noces. Lui, il préférait certainement ses habits à lui. Il y a des gens qui préfèrent leur religion à Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils veulent bien accepter Dieu, mais ils n'acceptent pas l'habit de noces. Une robe de fin lin, pour eux, c'est peut-être pas joli. Ils préfèrent les habits brodés d'or de la religion officielle. Quelqu'un qui est prêt, c'est quelqu'un qui non seulement a accepté l'invitation, mais qui accepte de marcher en Christ, avec Christ, de renoncer à soi-même. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Un chrétien qui parle de Jésus, il s'éloigne de l'iniquité. Voilà, c'est ça le témoignage que nous devons rendre. Mes frères et sœurs, c'est ça le problème, c'est que le diable, il arrive à nous plonger dans la confusion. Et il essaie, c'est ça notre Christ. Et il essaie de nous faire croire qu'on peut être chrétien et vivre comme le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le drame. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses dans le monde qu'on ne peut pas faire. À partir du moment où c'est saint. Mais on ne devrait pas avoir besoin de 3 mois de réflexion pour se poser la question, est-ce que cette chose, je peux la faire? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il va se poser la question, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Et il sait de suite ce qu'il doit faire. Mes frères et sœurs, Jésus pose une question dans l'Évangile, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il ne dit pas, trouverai-je des chrétiens dans les églises? Trouverai-je des gens qui se promènent avec la Bible sous le bras? Non, trouverai-je la foi? Cet après-midi, Dieu voit-il des hommes, des femmes qui ont vraiment cette foi, qui prient avec foi, parce qu'on peut prier pour parler, on ne sait pas trop à qui, mais au plafond peut-être, mais trouverai-je la foi? Cet après-midi, qu'est-ce que Dieu trouve dans ton cœur? Parce qu'il pose la question, mais il le sait. Vous comprenez bien qu'il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, comment dirais-je, il sait tout le Seigneur, vous le croyez? Il sait. Cet après-midi, qu'est-ce qu'il trouve dans votre cœur? Est-ce qu'il trouve cette foi? Est-ce que vous lisez la Bible avec foi? Ou est-ce que vous lisez la Bible pour lire la Bible, comme me disait un jour, je lis la Bible parce que j'ai peur que vous me demandiez si je lis la Bible. Alors je lui ai dit, si c'est ça, je ne sais pas s'il faut la lire. Hein. Vous voyez, il avait peur que je lui demande. En plus, ça m'était peut-être arrivé. Vous savez, des fois, on peut poser la question à une personne, est-ce que vous lisez votre Bible, etc. Je lui dis, ce n'est pas du tout de l'inquisition. Mais, et le gars, il me dit, voilà, je la lis parce que ben, je lui dis, écoutez, je ne vous poserai plus la question, ne vous inquiétez pas. Bon, mais c'est ridicule. On lit la Bible avec foi. Pour recevoir un message de Dieu. Est-ce que la foi, c'est cette foi qui fait que l'Église aime prier? Est-ce que vous aimez venir à la réunion de prière? Est-ce que c'est important pour vous de venir en semaine? Un jeune me disait tout à l'heure, le mercredi, le lundi soir, quand il n'y a pas de réunion, on se retrouve, on est 5 ou 6 dans la salle à manger là-bas, et on prie, on se fait du bien, on est bien ensemble. Est-ce que vous aimez le mardi soir à la réunion hebdomadaire de prière? Est-ce que c'est important pour vous de venir et de combattre le bon combat? C'est peut-être pas toujours possible, mais il me semble qu'un croyant qui est prêt, il a envie de venir. Soutenir. Dimanche, nous aurons notre jeûne et prière entre midi et 2. Moi, je crois que c'est bien de prier pour les frères et sœurs en Tunisie, pour les frères et sœurs en Égypte, pour les frères et sœurs en Libye. Vous savez qu'il y a des chrétiens en Libye. Beaucoup de chrétiens qui se convertissent. Est-ce qu'il ne faut pas les soutenir en ce moment? Est-ce qu'on ne peut pas se priver d'un repas? Un repas par mois pour se retrouver avec des frères et sœurs pour prier? Ah, moi, je n'ai pas le temps. On avait prévu d'aller à Flunch. Eh bien, il faut aller à Flunch. Eh ouais, ça ne peut pas se décommander, Flunch. Vous vous rendez compte, le maître d'hôtel sera furieux si vous n'y allez pas. Mais on en arrive à des aberrations. Vous voyez, oh non, on a prévu, on a... Non. Bon, j'arrête. Mes frères et sœurs, les chrétiens qui sont prêts, sérieusement, je crois qu'ils luttent contre la puissance des ténèbres. Ils ont envie de voir les ténèbres reculer. C'est pas vrai? Et je crois qu'il se dit, mais c'est vrai, est-ce que je suis sérieux avec ces choses? La confusion, elle y est déjà. Regardez dans Luc 21. Dans Luc 21, est-ce que ce n'est pas la confusion déjà, ce qu'on va lire? Des choses terribles qui se passent. Luc 21, 34. Regardez, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour, vous voyez, il fait allusion à la fin des temps, quand il viendra, ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quelle confusion! D'un côté, il y a des famines. Est-ce que Jésus a dit qu'il y aurait des famines sur la terre? Oui. D'un côté, il y a des famines, et de l'autre, des excès, et les chrétiens qui sont appesantis, donc dans la confusion, à cause des excès du manger et du boire. Ça fait presque rire. Vous comprenez ce que je veux dire? D'un côté, les croyants, des hommes qui meurent de faim, et de l'autre, en Occident, des gens qui sont en train de mourir parce qu'ils mangent trop, et des gens qui sont appesantis, donc dans la confusion, des chrétiens, parce qu'ils mangent trop. Ah, le béni soit Dieu si on a de la nourriture en abondance. Est-ce que vous avez à manger le matin, le midi, le soir? Vous savez qu'il y a des chrétiens dans certains pays, ils prennent qu'un repas par jour. Certains prennent un repas tous les deux jours. Et ce qui devrait être un sujet de joie, de reconnaissance, d'exaltation, comme quand on chante des cantiques sur le salut, ça nous pousse à exalter Dieu. Mais quand on mange, ça devrait nous pousser à le louer aussi. Et pas à nous appesantir et à nous gaver, excusez-moi le terme. Des chrétiens ne seront pas prêts parce qu'ils sont dans la confusion à cause des excès de table. Les cœurs appesantis, c'est évident que ce sont des cœurs qui sont dans la confusion, par les soucis de la vie. Il parle des excès du manger, du boire, mais il parle des soucis de la vie. Et les chrétiens, ils sont soucieux. Oh, comment je vais faire ma prochaine voiture? C'est important. Merci Seigneur pour la voiture. Mes frères et sœurs, ne soyez pas dans la confusion à cause des soucis de la vie. Merci Seigneur de nous avoir fait naître en Occident, de nous faire vivre en Occident, vous qui venez d'Afrique ou d'ailleurs. Bénissez le Seigneur d'être ici et ne soyez pas appesantis par les soucis, ne soyez pas appesantis par les excès. Mes frères et sœurs, l'apostasie, la Bible nous parle de l'apostasie. Il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, beaucoup de gens, c'est écrit, abandonneront la foi. Ils voudront voir des miracles, mais ils n'auront pas l'amour de la vérité. Regardez, on peut le lire quand même, on ne l'a pas lu ce matin non plus, mais on peut le lire, c'est dans 2 Thessaloniciens. Il est décrit le comportement de beaucoup de chrétiens à la fin des temps. Ils voudront voir des miracles, mais ils n'auront pas l'amour de la vérité. Le résultat, c'est qu'ils se feront avoir par des faux prophètes qui parleront de miracles et de ceci et de cela. Regardez, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, « Que personne ne vous séduise. Ce que j'ai voulu faire cet après-midi, et ce matin, je n'ai pas pris les mêmes textes, mais c'est prendre des textes qui nous parlent que les gens seront séduits. Que personne, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mais regardez au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Regardez bien avec quoi ? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qui vous intéresse le plus ? De voir des miracles et des prodiges ou d'avoir l'amour de la vérité ? Eh ouais, parce qu'il va venir, il vient ce temps où il y aura des faux prophètes qui vont faire beaucoup de bruit, beaucoup d'artifices, parler de miracles, parler de signes, etc. Des choses mensongères, mais les croyants seront tellement aveuglés par ces choses qu'ils en perdront l'amour de la vérité. Ils seront séduits, mes frères et sœurs. Ce sont des choses terribles. On verra des manifestations, mais on ne verra plus l'amour de la vérité. Alors, on est là dans ce temps où les gens ne supportent plus la saine doctrine. Je crois qu'ici, dans cette assemblée, béni soit Dieu, on aime la saine doctrine. On est soucieux de respecter la saine doctrine parce que les gens, dans les derniers temps, seront irreligieux. Je le disais ce matin, vous pouvez aller devant une boîte homosexuelle, les gens sortent, ça ne dérange personne. Personne. Mais même ici, déjà, quand vous sortez d'une église, il y a des gens dans la rue, ils peuvent vous regarder de travers. Vous sortez d'une église aujourd'hui, on trouve ça un peu bizarre. Vous sortez d'une boîte de nuit homosexuelle, ça paraît tout à fait normal, presque bien. C'est ça la fin des temps. Dans les derniers jours, les gens seront irreligieux. Quand les gens sont irreligieux, ils ne sont pas choqués par le péché, ils sont choqués par les gens qui vivent dans la sainteté. Et on pourrait voir beaucoup de choses, on termine avec ce texte dans Tite, un texte qui est impressionnant. Juste avant les Hébreux, il y a un petit livre... Tite, il y a un texte, il parle des chrétiens, de certains chrétiens. Ils se font paraître chrétiens, il est dit comment, Tite chapitre 1 verset 16, ils font profession de connaître Dieu. C'est-à-dire, moi je suis chrétien, je suis évangélique, je suis baptiste, je suis protestant, j'en sais rien. Ils font profession de connaître Dieu, mais qu'est-ce qui est écrit ? Ils le renient par leurs œuvres. Étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Voyez ? Incapable d'aucune bonne œuvre. Et je nous pose la question. C'est vrai qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais est-ce qu'un chrétien qui est sauvé peut ne pas faire des œuvres ? Eh non ? Un chrétien qui est sauvé, qui est dans la volonté de Dieu, il fait les œuvres auxquelles Dieu les appelle. Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées à l'avance. Alors c'est quelque chose, samedi on aura une réunion d'hommes et j'espère que tous les hommes seront là. À moins que vous ne puissiez pas, ce qui peut arriver. Mais j'espère, c'est Monsieur Olé qui va faire une étude sur justement comment les anciens sont appelés, peuvent aspirer à avoir leur place. Mais c'est surtout aussi pour que dans nos maisons, les hommes aient la place qu'ils doivent avoir. Et je comprends pourquoi Dieu dit à Osée, mais embouche la trompette, avertis-les. C'est ça que ça veut dire, embouche la trompette, ça veut dire Dieu dit à son serviteur, mais écoute, prends la parole et dis-leur. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, vous dire, où en êtes-vous ? Est-ce que vous refusez de vous purifier ? Est-ce que vous vous contentez juste d'une vie d'église ? Beaucoup de gens iront à l'église à la fin des temps, mais ils n'obéiront pas à Dieu. C'est ce qui se passait, ils n'avaient pas abandonné Dieu, le culte, mais ils avaient abandonné le Seigneur et l'ennemi est venu. L'ennemi fond comme un aigle. Dieu utilise cette expression pour nous montrer le danger imminent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un aigle attaquer un lapin. Je peux vous dire que ça va vite. Le lapin n'a pas le temps de le voir venir. Croyez-moi. Et c'est la preuve que l'ennemi peut intervenir si nous ne veillons pas. La Bible dit qu'on peut donner accès au diable, qu'on peut donner l'avantage à Satan au travers de situations qui ne sont pas réglées. Oui, l'ennemi, il vient quand on le laisse venir. Et lorsqu'une église se lève et dit « Non, ouvre mes yeux, je veux Seigneur discerner le temps dans lequel je suis, je veux faire attention, je ne veux pas être dans la tentation, dans la convoitise, je veux expérimenter ta grâce. » Alors devant ces choses que je pourrais développer encore, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire, devant ce que nous venons d'entendre, mes frères, mes sœurs, quel choix faites-vous? Nous allons prendre la Sainte Cène dans quelques minutes. Comment vous positionnez-vous devant le Seigneur? Où en êtes-vous? Est-ce que vous dites, voilà, je veux combattre le bon combat, je veux véritablement être prêt, j'ai pas envie d'entendre de la bouche de ce Dieu merveilleux, retire-toi de moi, ou jetez-le dans les ténèbres du dehors. Mais vous vous rendez compte? Et pourtant, beaucoup entendront ça. C'est écrit beaucoup. Et Jésus, il n'a pas dit beaucoup, il n'a pas dit, oh, j'aurais peut-être pas dû dire beaucoup, j'aurais juste quelques-uns. Non, il a dit beaucoup, parce que dans l'Église, beaucoup de gens ne sont pas sérieux. Ils croient en Dieu, mais ils vivent dans l'iniquité. Alors, quel choix faites-vous? Ou quelle excuse allez-vous encore trouver? Supplémentaire, suite à cette prédication, on est tellement rusé qu'on est capable de trouver des excuses valables, entre guillemets, pour continuer à désobéir à Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Janson, vous pouvez choisir deux ou trois frères, s'il vous plaît, pour la Sainte-Cène. Pendant ce moment, il nous reste quelques minutes. Pendant ce petit quart d'heure qui nous reste, est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit mettre le doigt sur ce qui l'empêche de nous bénir? Mon frère, ma sœur, peut-être c'est ta vie de prière, ta communion avec Dieu, ton service dans l'Église, ton ministère dans l'Église. Peut-être que tu enfouis le talent et que tu es comme ce serviteur qui s'est lui aussi entendu dire « Jetez-le dans les ténèbres » parce qu'il avait enterré le talent. Est-ce que le Saint-Esprit, maintenant, alors qu'on va prendre le pain et le vin, est-ce qu'il peut vraiment mettre le doigt sur ce qui empêche Dieu de vous bénir? Le Seigneur est au milieu de nous, on l'a chanté, on l'a glorifié tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'est pas là, le Seigneur, pour nous guérir? Est-ce que Jésus n'est pas là cet après-midi pour nous délivrer? Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Il dit qu'il consolera tous les affligés, qu'il donnera un diadème au lieu de la cendre, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui dit « Oui, Seigneur, j'ai abandonné la prière, j'ai abandonné la communion, j'ai abandonné ma place dans l'Église, je boude, je râle, je suis là en train de m'enterrer. » Alors Seigneur, cet après-midi, en prenant le pain et le vin, je m'examine, je me juge moi-même. La Bible dit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé. Voilà ce que Dieu a dit, si vous vous jugez, vous ne serez pas jugé. Qui cet après-midi se juge et dit, moi, je veux être là le mardi soir, c'est ma place. Peut-être c'est le jeudi après-midi, peut-être c'est le jeudi soir, peut-être c'est là dans la chorale. Peut-être que votre place est dans la chorale. Peut-être votre place est aux enfants, aux ados, chez vous, à l'intercession, je ne sais pas. Incapable d'aucune bonne œuvre. Qui sait qui est là, incapable de faire une œuvre pour le Seigneur? Si vous êtes là cet après-midi, laissez Jésus vous guérir. Laissez Jésus vous toucher. Laissez Jésus vous restaurer. Il n'est pas là cet après-midi pour nous juger. Le jugement, ça sera après l'enlèvement. Après. Le Seigneur, il est là pour nous délivrer. Si Dieu demande à Osée d'emboucher la trompette, c'est pour libérer son peuple de la désobéissance. Tant que Jésus est assis sur le trône de la grâce, il veut te faire grâce. Alors y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui dit « Oh Seigneur, oui, je veux me purifier. Oui, je ne veux plus regarder ces saletés à la télé. Oui, je ne veux plus le mardi soir regarder la télé plutôt alors que ma place, elle est là dans ta maison, à prier pour mes frères et sœurs en Libye. Pour mes frères et sœurs, maintenant, ça va être le Yémen, ça va être, vous le savez, Bahreïn, etc. Je veux être là pour les soutenir. Je veux être là, dans la maison de prière. Mes frères et sœurs, vous qui êtes baptisés, vous qui avez accepté Jésus comme sauveur, et je l'espère comme Seigneur, levez-vous à votre place. Les frères vont passer dans les rangs, vous distribuer le pain, le vin, ce pain qui, vous le savez, rappelle le corps brisé de Christ. Le vin qui nous rappelle ce sang versé qui est capable encore de nous purifier et de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Qui cet après-midi? Seigneur, purifie-moi. Vous avez vu la question dans Osée, mais jusqu'à quand refuserez-vous de vous purifier? C'est pour ça que j'ai pensé que c'était souhaitable de prendre la Sainte-Cène après la prédication. Qui veut utiliser ce moment pour dire, Seigneur, il faut que je remette à niveau tout. Je veux me purifier. Je veux retrouver la communion. Je ne veux pas faire partie de ces vierges folles, me contenter d'un petit peu d'huile. Je ne veux pas juste t'avoir comme sauveur, je veux t'avoir comme maître. Celui qui gouverne ma vie. Levez-vous, vous qui êtes en paix avec Dieu, vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui êtes sauvés, levez-vous à votre place. Prenez le pain et le vin avec beaucoup de joie. Mais si ça ne va pas avec Dieu, utilisez ce moment justement pour faire la paix avec lui. Utilisez ce moment. Seigneur notre Père, nous sommes à tes pieds. Oui, nous voulons que ta parole soit une trompette claire, un son clair, un son pur, qui n'entraîne pas l'Église dans la confusion, mais qui entraîne l'Église dans le bon combat. Tu vois ceux qui sont incapables de faire une œuvre pour toi. Cet après-midi, délivre-les et fais-leur vivre ces moments de restauration, ces temps de rafraîchissement. Oui, tu es là, Seigneur, pour restaurer. Et tu vois ceux qui ne font plus rien pour toi, pardonne-les et accueille-les tout à nouveau. Qu'ils retrouvent, Seigneur, la place que tu leur as donnée. Qu'ils déterrent ce talent et qu'ils puissent tout à nouveau le faire valoir. Car tu es un Dieu qui ne te lasse pas de pardonner. Tu es un Dieu qui ne te lasse pas de restaurer. Oui, tu restaures notre âme et tu nous conduis près des eaux paisibles. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen.